Ça va bien? Excellent. Beaucoup, beaucoup de gens que je connais pas. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui me connaissent pas non plus. Fait que je vais me présenter. Moi, c'est Étienne Brochu. On est présentement, on vit à Orford, en Estrie. Et puis, je suis directeur dans un camp de vacances chrétien. Et puis, ça fait maintenant 4 ans qu'on est là-bas. Et puis avant, ben, on était ici, moi et ma famille. Puis on a servi ici comme ouvrier pendant 9 ans, avant de s'en aller en Estrie. Ça a été 9 ans bénis. Et puis, ils sont encore très, très chers à nos cœurs. Et puis, on est encore très attachés à votre église, à l'église ici. Et puis, on est très, très heureux d'être ici ce matin. Mes enfants, vous pouvez, ma famille, vous peut-être vous lever pour présenter que les gens vous connaissent. Elena puis Chloé sont partis en bas? Ah, ils sont en arrière. Je les voyais. James, t'es rendu trop grand. Tu les caches. Excellent. Et puis, on a Jaël aussi qui est avec nous aujourd'hui. Allô, Jaël, elle aime pas. Contrairement à moi, elle aime pas ça se faire mettre sur le spot. Donc, Jaël travaille au camp depuis maintenant, quoi, Jaël? Depuis 2018. Depuis 2018, c'est sa 7e année. Et puis, elle va être membre de l'équipe permanente pour une deuxième fois, mais là, pour une longue période, à Parkside aussi. Elle commence un poste à vie, ben, Dieu voulant, aussi longtemps que Dieu le veut. Elle va travailler avec nous à temps plein au niveau des jeunes, puis au niveau du camp. Donc, ce matin, j'aimerais vous présenter un peu le camp, mais aussi présenter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a eu un thème tout au long. Je réfléchissais à mon été, puis qu'est-ce qui a été vraiment un des éléments marquants cet été? Ben, j'ai préparé un message qui est en lien avec ça. Et puis, cet été a été encore une année bénie, une année pas facile. C'est toujours difficile de mettre une centaine de jeunes ensemble dans un seul endroit et puis qu'il se passe rien. Ça brasse, les gens vivent toutes sortes de choses. On apporte tous et chacun notre bagage, notre perspective, nos enjeux, puis on met ça ensemble pendant plusieurs semaines et puis ça donne un beau cocktail de toutes sortes de situations et toutes sortes d'événements. Mais à travers tout ça, on voit vraiment la main de Dieu. Puis c'est quand même assez extraordinaire que quelque chose de beau et de merveilleux peut sortir de tout ça. On voit la main de Dieu puis la direction de Dieu, parce que si ça serait juste nous, par nos propres moyens, nos propres forces, même si on aurait les plus beaux souhaits, les plus belles intentions du monde, ben, je suis pas sûr que les fruits qui en ressortiraient seraient si positifs que ça. On a encore cet été, on a eu 7 semaines de camp. On a eu une centaine de staffs différents au courant de l'été. Il y en a qui sont restés pour les 7 semaines, il y en a qui faisaient 3 semaines, il y en a qui faisaient 4 semaines. Il y en a qui en faisaient juste une, mais on a eu une centaine de staff qui a passé à travers l'été. Beaucoup, beaucoup de personnes. On a eu une centaine de jeunes dans le camp de jour tous les semaines, pendant les 7 semaines. Et puis, après ça, les camps de vacances, les camps d'une semaine. Cette année, on a ajouté une semaine de plus pour voir si on allait avoir les gens. Il y a suffisamment d'inscriptions, puis tout ça, puis Dieu a vraiment béni. On a eu 4 semaines de camp avec suffisamment de jeunes. On a eu 2 semaines qui étaient complètes. On a eu les 2 premières semaines, environ 50 jeunes. Donc, on a été vraiment, vraiment béni. Et dans l'ensemble, cette année, on a accueilli plus de jeunes au camp que les années précédentes. Donc, on a encore augmenté, si on peut dire, la portée de ce qu'on fait. Parkside existe vraiment pour apporter la guérison et aussi un but dans la vie des jeunes par l'expression concrète de l'amour de Dieu. Donc, c'est vraiment d'apporter l'Évangile aux jeunes. Et le camp a été fondé avec cette mission-là, et c'est encore la mission qu'on a aujourd'hui, qui est réellement d'apporter l'Évangile aux jeunes, que les jeunes se sentent aimés, que les jeunes se sentent vus, et qu'ils partent avec une notion concrète et claire de qu'est-ce que l'amour de Dieu pour moi. Et puis, cet été encore, je crois que le Seigneur a accompli la mission. Le Seigneur l'a fait. Et puis, il y a plusieurs jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur à travers la semaine. Peut-être quelques témoignages. Je sais que James, il a eu quelques expériences à ce niveau-là. James, tu pourrais le partager, à l'Assemblée? Ah, il faudrait qu'il y ait le micro, hein?
OK, allô, oh là là, c'est bizarre. OK, fait que c'est ça, fait que j'ai vu plusieurs enfants au courant de l'été. Il y en a trois qui m'ont marqué, là. Il y en a une, elle était dans mon groupe de camp de jour, c'était une petite campeuse. Et puis, on lui a expliqué, dans le fond, c'est ça faisait un petit bout qu'elle venait. Je pense que ça s'appelle Erika. Et puis, on lui a vraiment expliqué, dans le fond, le plan de salut et puis l'amour de Jésus, puis tout ça. Et puis, elle a vraiment été touchée. Ça s'est vraiment venu changer quelque chose dans son cœur. Et puis, je me souviens prier avec elle pour qu'elle accepte Jésus. Et puis, elle était juste, genre, tu sais, vraiment joyeuse. Tu sais, la paix, puis ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, genre, wow! Genre, ça change vraiment les vies, même les petits-enfants. Puis, on n'est pas là pour rien, là.
Quelqu'un d'autre? Jaël, peux-tu dire quelque chose?
Donc, ouais, moi, ça fait 7 ans que je travaille à Parkside. Puis, fait à venir à chaque année, on voit souvent des jeunes qui reviennent pour plusieurs années. Puis, ça fait 2 ans que je suis aussi la directrice du camp d'ado. Puis, cet été, pour la première fois, il y avait un de mes jeunes au camp de jour qui était venu comme campeur au camp d'ado. Puis ça fait, lui est venu à cause d'un ami qui venait, que sa famille était impliquée au camp. Puis c'est un jeune qui vient d'un background similaire au mien, comme il est haïtien lui aussi. Puis moi je suis haïtienne, il a grandi dans un milieu catholique. Donc on a vraiment vécu des expériences vraiment similaires. Puis cet été, c'est la première fois qu'il venait au camp d'ado. Il avait tellement hâte parce qu'il était comme « Ah, oh, le camp de jour s'est rendu plate. Genre, je suis trop vieux pour le camp de jour. » Non, non, non. Fait que le camp d'ado, c'est vraiment cool. Puis on lui disait tout le temps « Attends, mec, quand tu vas venir au camp d'ado, là, tu vas vraiment aimer ça. » Puis il est arrivé au camp avec un chandail d'un artiste qui est une rappeuse, là, qui est vraiment genre… C'est vraiment hyper sexualisé, puis genre vraiment pas cool. Puis c'est un jeune, il y a 14 ans, je pense. Puis il est arrivé au camp, tout fier de porter son chandail, puis de le montrer à tout le monde. Check, moi j'ai un chandail de High Spice, puis là tout le monde est comme, oh, ouf, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Mais ouais, puis durant ma semaine au camp de jour, le thème qu'on avait choisi, c'était le thème du trésor. Donc ça, c'était comme un trésor pour lui qu'il a reconnu. Puis dans le fond, le matin, on voyait des personnes dans la Bible qui avaient des mauvais exemples de trésor. Puis le soir, on regardait les personnes qui avaient le trésor, c'était Jésus. Puis ça l'a beaucoup fait penser, les messages l'ont vraiment touché. Puis il est venu à la conclusion que oui, c'était vraiment un trésor pour lui. Il y avait des combats avec, c'est quoi, la convoitise, lust. Ouais. Puis que cet artiste-là, mais en fait, ça nourrissait ce combat-là qu'il y avait. Durant la semaine au camp, il a voulu donner ça à Jésus, puis il a donné sa vie aussi à Jésus. Puis à la fin du camp, il avait fortement sur son cœur qu'il voulait brûler son chandail, puis qu'il voulait mettre ça en arrière de lui, puis carrément. Fait que le samedi matin, sa mère était là, puis on était comme, je veux brûler mon chandail. Puis là, OK, on va brûler ton chandail. Fait que on est allé, moi, James, ouais, il est en vidéo. On était une couple de moniteurs. Caleb aussi, t'étais là. Puis, on a brûlé son chandail au Campfire Pit, puis on chantait des chansons comme « Car j'ai décidé de suivre Jésus », puis « Rien ne peut sauver mon âme ». Et après, il regardait ça, puis il était comme, je comprends même pas pourquoi j'aimais ça, puis je comprends même pas, non, non, non. Puis oh, j'étais tellement con, puis on était comme, mamie, tu connaissais pas Jésus avant, puis maintenant tu le connais. Fait que c'est pour ça que ça a l'air comme, pourquoi je faisais tout ça, mais on voyait vraiment un esprit renouvelé, puis un homme après Jésus chez le jeune. Donc c'était vraiment fantastique.
Donc, l'impact est vraiment tangible. Puis, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Le Seigneur a vraiment béni encore. Et puis, ce n'est pas un jeune qui vient d'un milieu chrétien, évangélique. C'est un jeune qui reste très proche de chez nous aussi. Donc, on va voir la suite des choses. On va essayer de contacter les parents puis voir eux où est-ce qu'ils se situent par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'ils voient aussi cette décision-là dans la vie de leur enfant. Donc, il y a un accompagnement qui n'est pas juste au niveau des enfants, mais c'est aussi les familles. On est en contact avec les familles. Les familles du camp de jour, on les voit le matin, le soir, quand ils viennent chercher leurs enfants, quand ils l'apportent, quand ils reviennent le chercher. Donc, il y a vraiment une communauté autour du camp qui s'installe. Et puis, c'est vraiment bénissant de voir le Seigneur. Il y a une maman aussi qui nous a écrit. Vous voyez tout le message, là, c'est pas juste. Elle nous a écrit ceci. Elle nous a dit « Bonjour Étienne, je sais qu'il est encore tôt, mais je pense déjà à l'an prochain. » Donc, il y a une maman qui pense déjà à l'année prochaine pour sa fille pour le camp de jour. Et puis, elle nous dit « Oh, hein? Ça a débranché, c'est pas grave, c'est pas là, j'ai de besoin. « Je sais qu'il est encore tôt, mais je pense déjà à l'an prochain. Mathilde se sent vraiment bien avec vous. Je trouve ma petite fille qui peut être, elle, qui elle a envie d'être, entourée de personnes bienveillantes. Elle se voit déjà être animatrice dans quelques années, c'est-à-dire à quel point elle est bien avec vous. Donc, que chaque jeune se sente aimé, que chaque jeune se sente vu et qu'ils entendent parler de l'amour de Jésus. Et puis, encore une fois cette année, Dieu l'a fait à travers chacun de nous. Et puis, on peut réellement lui rendre gloire pour ça. Je n'ai pas tous les chiffres, tous les détails. On n'a pas eu le temps encore de compiler tous les sondages. Mais que je revienne plus tard, je vous les communiquerai. Il y a aussi Anaëlle qui est avec nous cet été. Elle a passé 3 semaines avec nous. Ça a été vraiment bénissant de l'avoir aussi. Je pense que tu as aimé ça aussi, Anaëlle, hein? Beaucoup. Donc, c'est à travers tout ça, on voit la mission, puis l'Évangile qui avance dans une nation, dans une province où ce que l'Évangile est très, très peu présente. Et puis, les jeunes découvrent un endroit où ce qu'ils peuvent considérer Dieu sans avoir peur de se faire rejeter, sans avoir peur d'être rejeté ou ridiculisé devant leurs amis puis devant leur père. Et puis, à Parkside Ranch, ils découvrent cet environnement-là où est-ce que c'est normal. Puis, je peux m'arrêter puis vraiment avoir des réponses intelligentes à mes questions par rapport à la personne de Dieu. Il y en a qui vont faire des pas petit à petit. Il y en a que c'est juste, ils vont avoir une réponse à leurs questions puis ça va aller à l'année prochaine. C'est un processus, c'est un cheminement dans la vie des gens. Et puis, d'une année à l'autre, les jeunes apprennent à connaître qui est Dieu, puis ils grandissent à travers ça. Et qui sait ce que Dieu va faire avec dans le futur, dans leur vie, dans ce qu'ils vont vivre? De quelle façon Dieu va revenir chercher ces racines-là, ces graines qui ont été plantées-là, pour avancer dans leur vie? Un autre moment qui a été particulier, c'est avec un des enseignants du camp de jour, qui est aussi le président de notre conseil d'administration. Il vient une semaine pour animer, pour être directeur d'un camp de vacances, puis la deuxième semaine, il reste pour enseigner les jeunes du camp de jour. Et puis, cette année, son thème, c'était Moïse. Et puis, il y avait une des scènes, c'était le buisson ardent. Et puis, ce qu'il avait fait, c'était intéressant, il avait mis un rideau, et puis, il avait demandé aux jeunes de jouer le rôle de Dieu puis de dire « Qu'est-ce que Dieu dirait à Moïse, selon toi? Qu'est-ce que Dieu dirait à Moïse pour l'encourager, pour le fortifier, puis ainsi de suite? » Puis, à tour de rôle, les jeunes s'en allaient en arrière du rideau puis prenaient le micro puis disaient quelque chose. Et puis, c'était frappant de voir à quel point tout ce qu'ils ont appris avec les années de la personne de Dieu, parce que ce n'était que des paroles d'encouragement. C'était « Jamais je ne t'abandonnerai. Je t'aime plus que ce que tu penses. Prends courage, va libérer mon peuple. » Il y en a qui n'avaient même pas fini de raconter l'histoire de Moïse. Il était rendu à l'appel de Moïse. Il n'avait pas encore parlé de libérer le peuple, mais les jeunes le savaient déjà que ça s'en venait. Et puis, ça a été vraiment beau de voir qu'est-ce que les jeunes ont compris de la personne de Dieu. Oui, on parle d'enfants de 6 à 14 ans. Et puis, ça a été beau de voir les jeunes, même s'ils n'ont pas pris position nécessairement dans leur vie, ils le savent et ils le retiennent. Et puis, ça reste dans leur cœur. Et puis, le Seigneur va faire son œuvre à travers eux dans les temps voulus. J'aimerais juste vous présenter une petite vidéo, question de vous donner une idée des choses qui sont faites. C'est la deuxième semaine de camp de vacances. C'est la troisième, hein, Steven? C'est la troisième, excusez. C'est vrai, on est rendu à quatre semaines. On est encore dans l'habitude d'en avoir trois. C'est juste la petite musique.
Say hey, 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 even in the darkness. say hey, 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 hey. If that love's enough, say hey, 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 hey. Even in the darkest night, say hey, 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 hey. If you're gonna be alright, say hey.
Ça bouge, effectivement. Alors... ouais, c'est le seul repas qu'ils ont eu dans la semaine. des coupures, c'est... Mais on voit que ça bouge. Plein de choses qui se passent. Puis il y a tout qu'un... C'est tout qu'un ensemble de choses qui viennent jouer, qui s'entremêlent, puis c'est tout cet ensemble-là, le plaisir, le fait d'être vu, d'être entendu, d'être pris soin par un moniteur ou par l'équipe, et puis le fait d'être exposé aussi au message de l'Évangile, tout ça mis ensemble vient vraiment faire de camp de vacances un outil vraiment, vraiment efficace entre les mains de Dieu pour avancer la mission au Québec. C'est pas facile de parler de Dieu au Québec. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que un environnement comme le camp vient réellement apporter la relation qui est nécessaire avec les individus pour que la méfiance tombe puis que les gens puissent simplement être curieux. Et puis, l'idée, c'est de réellement respecter le cheminement de chacune des personnes qui sont là. Ils sont exposés, et puis chaque personne va réagir à ce à quoi ils sont exposés d'une façon différente. Et puis, ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir plus, bien, ils vont avoir des réponses à leurs questions, puis ils vont être accompagnés, simplement, de la façon dont ils manifestent le besoin. Puis, c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir prendre part à ça. Et puis, vous prenez part à ça aussi. C'est pas juste nous qui s'en va là-bas, qui reste là-bas, c'est aussi tous ceux qui soutiennent dans la prière. C'est tous ceux aussi, vous nous avez envoyés aussi. Donc, on est vraiment privilégiés. Puis, tout ce que Dieu fait là-bas, bien, vous prenez part à ça. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de venir vous en parler. Regardez ce à quoi vous avez pris part cet été. À travers la mission, puis à travers aussi l'envoi, comme le Seigneur nous dit, hein, il nous dit d'envoyer. Donc, c'est ce que l'Église a fait. L'Église nous a envoyés, et puis vous prenez part à cette mission-là, vous aussi. Même si on est à 6 heures de route, ça ne change rien. Il n'y a pas de distance pour le Seigneur. Et puis, vous prenez part à cette mission-là. C'est un réel privilège pour nous de se savoir soutenu aussi. Vraiment soutenu puis apprécié. Ça joue un rôle essentiel dans ce que l'on fait, puis aussi pour notre famille. On voit que le Seigneur, ce qu'il a fait dans notre cœur quand on était parmi vous, continue de nous soutenir quand on est là-bas. Et puis, le Seigneur continue de nous enseigner un paquet de choses et puis de nous faire grandir à travers tout ça. Et puis, on est heureux de voir aussi que l'Église ici grandit. Vous allez bien, le Seigneur vous bénit aussi. Et puis, on voit l'amour que vous avez également les uns pour les autres. Je veux vous encourager ce matin à continuer à regarder au Seigneur, puis à espérer en lui, puis à le chercher d'une façon intentionnel de tout votre être. Tantôt, on chantait, hein? Et tout notre être se tourne vers le Seigneur, tout notre être se tourne vers lui, puis le loue comment est-ce que Dieu est grand et puissant. Et puis, c'est vraiment une conviction profonde, c'est tout notre être qui est en admiration devant Dieu et puis qui s'engage envers lui. Cet été, une des choses qui a été particulière, je pense que ça s'est vraiment démarqué cet été, je réfléchissais à une ligne directrice ou quelque chose qui pourrait englober l'ensemble de mon été. Et puis, cette année, au camp, une des choses qui est particulière, c'est pas nouveau, mais je pense que cette année, on a décidé de l'enforcer ou de le mettre en application d'une façon vraiment, vraiment intentionnelle, sans compromis, c'est les fameux cellulaires. Ouais, on a décidé, puis c'est pas nouveau, mais cette année, on a décidé de réellement mettre en application le principe que nos moniteurs et nos campeurs ne doivent pas avoir de cellulaire avec eux. Donc, seulement certains moniteurs qui ont un rôle au niveau de la programmation, au niveau de leadership, pour une question de sécurité, puis des fois faciliter la communication, mais tous les autres n'ont pas accès à leur cellulaire. Est-ce que vous croyez que cette mesure-là a été bien accueillie ou non? Absolument pas. Et ça m'a comme un peu réellement, comment je peux dire, déstabilisé à certains moments donnés, de voir à quel point les gens disent « oui, 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 on comprend », mais à quel point ils résistent. Et la résistance dans leur cœur, tout ce que ça peut les amener à faire, c'est assez incroyable. Et c'est là qu'on voit les cœurs qui se révèlent. Et ça m'a réellement surpris de voir à quel point les jeunes, ça surprend, mais on s'y attend. Mais au niveau des staffs aussi, et de voir le niveau de résistance de la part des staffs, c'est assez impressionnant. Et de voir les magouilles qui se faisaient en arrière pour essayer de cacher, essayer d'avoir leur cellulaire plus longtemps, ou tant qu'ils ne nous le demandent pas directement, on n'y apportera pas. Ou il y en a ce qu'ils ont même fait, c'est que dans la deuxième semaine, quand ils ont vu qu'on était réellement sérieux, ils sont allés au Walmart, ils ont acheté un téléphone cellulaire bidon, et puis ils m'ont donné celui-là, puis ils ont gardé leur vrai. C'était leur plan de le faire. Mais vous voyez, oui, je vous dis, quand j'ai eu vent de ça, j'ai comme fait, ben voyons donc. C'est à ce point-là qu'ils ne sont pas capables de se séparer ou pour eux, ça ne fait pas de sens de ne pas avoir leur téléphone avec eux. C'est spécial. On va voir cette année, hein, le système scolaire, cette année, ils ont décidé de retirer tous les cellulaires, hein, des écoles, hein. Ça va être tout qu'un combat. Moi, je l'ai vécu à petite échelle, mais imagine, des écoles secondaires au complet, wow, prions pour eux. Prions pour les professeurs aussi qui vont avoir à mettre ça en place puis en application. Mais des jeunes qui sont engagés pour le Seigneur, des jeunes qui sont là, qui sont supposés être là pour faire la mission, pour prendre part à l'œuvre de Dieu au camp, d'être un modèle, d'être un témoignage, d'annoncer l'Évangile aux gens, magouiller des choses comme ça, wow! C'est surprenant, mais en même temps, ça révèle la beauté du cœur humain ou la vérité du cœur humain d'une façon tellement claire et limpide. À quel point on peut voir comment est-ce qu'on est prêt à faire des compromis dans nos cœurs? Oui?
Oui, c'est pas juste les enfants qui sont comme ça. Pour transporter du gaz, pour le pétrolier et le gaz. Et puis, même les adultes qui achètent des téléphones, c'était interdit sur les bateaux.
Ben oui.
Même à l'heure, ils faisaient pareil, ils passaient des téléphones.
Même les adultes vont cacher des choses dans des situations même où il pourrait y avoir un danger. Il y avait un élément de sécurité avec le statique, ça pouvait exploser. Mettre la vie des gens en danger. C'est là qu'on voit tout ce que le cœur de l'homme est capable de faire. Quand on est en accord, quand tout va bien, tout est beau. Quand on est en appui ou qu'on ça fait du sens. Mais dès que là, ça confronte quelque chose dans nos vies. Oh! Quand ça vient toucher quelque chose à laquelle on est attaché. Quand ça vient toucher quelque chose qui est précieux pour nous. Oh! Et c'est là qu'il y a des mécanismes qui s'enclenchent. Et puis, les autres peuvent regarder, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? À quel jeu tu es en train de jouer là? Puis on a vu la réaction, toutes sortes de réactions aussi à l'intérieur du staff, dans l'équipe. Et puis, ça a amené toute une dynamique à travers les semaines. Et puis, ce à quoi ça me faisait penser, puis ça me faisait référence, encore là, ça ramène à un principe qu'on a enseigné, que j'ai apporté souvent ici, quand j'enseignais, c'est de demeurer dans la lumière. Qu'est-ce que ça signifie, ça, de demeurer dans la lumière? C'est vivre dans la vérité. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, c'est demeurer dans la lumière. Parce que, écoutez, on va voir, c'est fondamental pour la vie d'un croyant. Demeurer dans la lumière. Mais comment est-ce que c'est facile de faire un compromis avec ce principe-là dans nos vies, quand il y a quelque chose auquel on est réellement attaché, ou quelque chose qu'on veut réellement qu'il reste caché, parce que si on me voit ou si on le sait, et là, qu'est-ce que ça va créer de l'autre côté? Donc, on est prompt à cacher des choses dans nos vies. Des choses qui viennent nous confronter ou des choses qui pourraient nous emmener soit de la honte ou soit à nos yeux qui pourraient nous disqualifier ou qui pourraient à nos yeux changer la façon dont les gens autour, les frères et sœurs aussi, la communauté nous voient. Comment est-ce qu'on est prêt de cacher ces choses-là? Mais à quel point on voit dans la parole que tout ça c'est de la folie encore. La folie de l'homme qui doute de l'amour de Dieu, qui doute de l'accueil de Dieu et qui doute aussi de son pardon complet pour tout. Et quand on demeure dans les ténèbres, quand on garde des choses cachées, comment est-ce que ça nous ronge? Et comment est-ce que ça vient détruire? Et pour ça, on peut tourner dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Il y a tellement de passages dans les Écritures qui nous parlent de ça. On va se promener un tout petit peu ce matin. Éphésiens chapitre 5, et on va commencer au verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8, ça dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Donc, il y a une notion ici d'identité. Il y a une notion qui dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. » Ténèbres, c'est la noirceur. Ténèbres, c'est l'élément de cacher. On n'était pas dans la lumière, donc on est dans les ténèbres. Et il dit « Maintenant, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » C'est quoi ça, marcher comme des enfants de lumière? Qu'est-ce que ça veut dire, marcher comme des enfants de lumière? Et ce n'est pas juste un petit changement de position, c'est un changement d'identité. Il dit « vous êtes, vous étiez, mais maintenant vous êtes ». Donc, ça fait partie intégrale de maintenant de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Quand on regarde dans Éphésiens chapitre 2, il nous dit « Autrefois, voici ce qu'était votre vie, mais maintenant, voici ce que vous êtes. » Éphésiens chapitre 2, il y a tout un changement qui se produit dans notre vie en termes de notre identité, de ce que nous sommes. Dieu fait une transformation. Et c'est un principe qui est partout dans les Écritures. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature, le jour où ce qu'on décide de vivre dans la lumière du Seigneur. Il y a une transformation. Mais maintenant, il nous dit, vous êtes lumière en Jésus-Christ. Marchez. Marchez comme tel. Marchez comme des enfants de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Marchez comme des enfants de lumière. Avez-vous une idée? Vivez comme des enfants de lumière, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, vivre comme un enfant de lumière? Manifester les fruits de l'esprit, oui. Autre chose, oui. Vivre dans la sanctification, la notion de la sainteté, oui. Vivre dans la vérité aussi, très, très important. Vivre dans la vérité. Qu'est-ce qui se produit quand on allume la lumière dans une pièce? Il fait clair. Donc, on voit. On voit ce qui se passe. On voit ce qui se trouve. Quand on marche avec une lampe de poche dans une pièce, ben on est capable de voir où est-ce qu'on met les pieds. On voit peut-être pas toute la pièce, mais on voit ce qui est devant nous. Et on est capable de voir l'ordre et le désordre. Et la lampe de poche vient pas créer, la lumière vient pas créer le désordre. La lampe de poche vient révéler, la lumière vient révéler le désordre qui est déjà présent. Donc, Paul nous le dit ici, à partir du verset 9, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt, dénoncez-les. » Donc, il y a la notion de fruit dans le fait de vivre comme les enfants de lumière, de marcher et de vivre dans la lumière. Portez le fruit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand on dit de bonté, c'est quoi la bonté? On parle de compassion, on parle de service, on parle de gentillesse, de justice, l'intégrité, l'équité, la droiture, de vérité. On parle d'honnêteté, de sincérité, de fidélité, de transparence. Des fois, de montrer son contraire vient aussi mettre en évidence ce qu'est les fruits de l'esprit, les fruits qui sont présentés dans Éphésiens chapitre 5. Au lieu de la bonté, on a son contraire qui est la dureté. On parle de sarcasme, on parle d'indifférence, d'être indifférent aux autres, de tout le temps faire le sarcasme. On est dur, on, dans nos paroles, dans nos actions, on va dire des choses qui peuvent être prises à double sens. Ça manque de clarté. Un des éléments du sarcasme, c'est que c'est pas clair. T'es-tu sérieux ou t'es pas sérieux? Et ça, c'est pas des œuvres de quelqu'un qui marche dans la lumière. Le Seigneur est clair. Il n'y a rien de caché. Au lieu de la justice, on a l'injustice. L'injustice, c'est faire du favoritisme. C'est de la médisance. On va partir des potins, on va dire toutes sortes de choses. On ne sera pas juste, on va avoir des partis pris. On ne sera pas égal avec tout le monde. Il y a l'élément, le contraire de la vérité, tu as l'hypocrisie. Hein? On parle vérité, honnêteté, sincérité, fidélité. L'hypocrisie, c'est faire semblant, se cacher, jouer un rôle. Donc, c'est facile quand on les met en contraste. Mais où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Quels sont les fruits que l'on porte dans notre vie? Est-ce qu'on marche comme des enfants de lumière? Quand mes staffs magouillaient pour cacher leur téléphone ou pas me les donner ou les garder ou étaient offusqués, ben il y en a qui ont fait de la médisance. Il y en a qui ont dit toutes sortes de choses sur mes intentions en faisant ça. Il y a quelques éléments qui sont venus à mes oreilles. J'étais comme, oh là là, ils prennent ça vraiment, mais vraiment à cœur. C'est particulier de voir jusqu'où qu'on est capable d'aller dans nos paroles quand on est confronté à quelque chose qu'on ne veut pas laisser aller. Puis les staff étaient mis au pied du mur parce que la deuxième semaine, j'avais ma liste de staff. Quand ils m'apportaient leur téléphone, je cochais leur nom. Mais je savais qui l'avait et qui ne l'avait pas. Les jeunes étaient devant un pied du mur. Souvent, quand on est mis au pied du mur dans une situation dans notre vie, qu'on veut la garder cachée, qu'on ne veut pas que ça se sache, ou on ne veut pas voir la vérité sur nos agissements, quand on ne veut pas voir la vérité sur notre cœur dans une situation, tout ce qu'on est capable de dire pour discréditer la personne qui nous met au pied du mur ou que Dieu utilise pour nous mettre au pied du mur, dans le but de le discréditer, le but de trouver un échappatoire pour arriver à nos fins, puis de conserver ce qu'on est en train de nous enlever dans notre perspective. Comment est-ce qu'on est capable de faire des injustices aussi à travers ça? Comment est-ce qu'on va être dur les uns envers les autres? C'est particulier de voir le cœur humain se débattre quand il est confronté à quelque chose qu'il ne veut pas laisser aller. Est-ce que je réagis avec bonté ou avec irritation dans ces situations-là? Est-ce que je traite mes frères et sœurs, les gens de ma famille, conjoints, conjointes, enfants, avec justice et transparence? Est-ce que je mets un masque pour me sauver la face aussi? Marcher dans la lumière, avoir les fruits, porter le fruit, bonté, justice et vérité. Si on continue, un autre trait de qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans la lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Un enfant qui marche dans la lumière, dans la vérité, qui veut être exposé, qui veut voir les choses comme elles sont, va examiner ce qui est agréable à Dieu, va se soucier, va avoir le désir de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Et il va s'en soucier, il va porter une attention à ce que je fais ou de la façon dont j'agis, est-ce que ça plaît à Dieu ou non? Le souci va être présent dans sa vie. Sinon, le contraire de ça, c'est, le Seigneur est moins important et notre opinion, notre point de vue est plus important que celui de Dieu. Et puis Dieu, si ce que je fais est contraire à ce qu'il demande, qui est évident dans sa parole, écoute, on est tous pécheurs, hein? Et puis, qu'est-ce que le Seigneur il va faire? Il va me pardonner. On joue un jeu dangereux, là. Très dangereux en agissant comme ça. Ça révèle les cœurs, mais ça révèle aussi ce souci-là. Est-ce que tu as le souci de ce qui est agréable ou non pour Dieu? Est-ce que c'est important pour toi? Parce que si ça ne l'est pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton cœur. Il y a quelque chose de brisé, là, qui est fondamental pour un enfant de Dieu. Quelqu'un qui a vu, qui a reçu la grâce de Dieu, qui a reçu le pardon pour ses péchés. Quelqu'un qui a réellement compris le prix que Jésus-Christ a payé à la croix pour lui, va se soucier de ce que Dieu pense. Ça va être important pour lui. Et il va le prendre en considération quand il va avoir des choix à faire dans ses actions, dans sa pensée, dans sa vie quotidienne. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Au lieu de rester passif, de ne pas se soucier de ce que Dieu dit, puis d'aller selon ta propre sagesse, bien, on dénonce les œuvres stériles de l'ennemi. La sagesse de Dieu, et non ma propre sagesse. Et c'est une des caractéristiques d'un enfant de Dieu. Autrefois, on marchait selon verset Éphésiens chapitre 2, juste tourner une page avant, Éphésiens chapitre 2, verset 2, verset 1. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc, marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Ce qui veut dire que tu vis ta vie comme bon te semble, tu vis ta vie selon là où ce que le vent te mène et selon ce que tu crois, selon ta propre sagesse dans le moment. Puis tu dis, ça me va, donc tout est beau. Mais ça, c'est les œuvres des ténèbres. C'est les œuvres de l'ennemi. Tu n'es pas en train de te laisser diriger par le Seigneur quand on agit comme ça. Tu n'es pas en train de marcher dans la lumière. Ce n'est pas caractéristique d'une personne qui marche dans la lumière et qui examine ce qui est agréable au Seigneur et qui ne désire rien en commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt les dénoncer. Les ténèbres vivent pour plaire aux gens ou éviter les conflits. C'est fou comment est-ce qu'on est prêt à faire des compromis pour éviter des conflits. On n'aime tellement pas les conflits qu'on va se taire ou qu'on va faire des compromis pour les éviter. Et c'est caractéristique chez les Québécois. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas les confrontations et on va se fondre à la masse pour ne pas être différent ou pour ne pas créer de conflits. Vivre pour plaire aux gens, éviter les conflits, suivre ses émotions ou la pression ambiante, justifier le péché ou la paresse spirituelle. Est-ce qu'on se soucie réellement de ce qui est agréable au Seigneur dans chacune de nos vies? Une question d'application ici. Quand vous pensez aux situations dans lesquelles vous êtes présentement, est-ce que vous vous souciez dans la situation d'agir d'une façon qui est agréable au Seigneur? Est-ce que c'est important pour vous ou tout ce qui est important, c'est d'avoir gain de cause? C'est-tu la fin en soi qui est importante ou c'est le processus dans lequel le Seigneur révèle nos cœurs, révèle vos enjeux? Vous tiraille un peu à l'intérieur de hey, « ça, je ne veux pas le dire » ou « ça, je ne veux pas le révéler » ou « ça, je veux le garder pour moi » ou… Comprenez? Dans tout ça, qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui prévaut dans ce que vous êtes en train de traverser? Et une chose qui est intéressante quand on continue, verset 12, « En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. » Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Car tout ce qui apparaît est lumière. Et ici, c'est intéressant parce qu'il y a réellement un appel à apporter ce qui est caché à la lumière. La clé, c'est de révéler. C'est la vérité. La clé, c'est de révéler. Parce que quand on l'apporte à la lumière, ça devient lumière. C'est comme si tant que c'est caché, l'ennemi peut jouer avec. C'est une table d'opération. C'est une base d'opération dans laquelle il peut jouer. Il peut utiliser ce qui est caché, comme il veut, pour accomplir son but, son objectif, qui n'est pas le même objectif que Dieu a. Et quand on le dénonce, c'est comme si on enlève toute puissance que l'ennemi pourrait avoir dans la situation ou avec cet élément-là dans notre vie, avec cet enjeu-là qu'on a dans notre vie. On le désarme complètement. Parce qu'une fois que c'est révélé, l'ennemi n'est pas capable de demeurer dans la lumière. Il fuit. Il ne veut pas que ses œuvres soient révélées. Et quand on tourne dans Jean, chapitre 8, on va aller lire, parce que c'est Jésus qui parle, c'est vraiment intéressant. Jean, chapitre 8. Je vais aller chercher le verset. Verset 12. Jésus lui dit ceci. Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oh, c'est pas le bon verset. Mais c'est un bon verset, mais c'est pas celui que je voulais. Oh là là, je l'ai-tu là-dedans? Si je continue, non. C'est le verset qui dit, Jésus, il dit, celui qui marche dans la lumière, celui qui ne veut pas marcher dans la lumière, haït la vérité. C'est Jean 3, 20, laissez, ouais, c'est ça, c'est Jean 3, 20, 21. Ça doit être ça, c'est l'autre verset que j'ai dans Jean. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. Et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Donc, tant qu'on reste caché, on laisse l'ennemi. On laisse notre péché ou la situation avoir un contrôle, un pouvoir dans notre vie. Et c'est souvent la tendance du cœur de l'homme. On a peur. On a peur d'être révélé. On a peur d'être vu. On a peur du jugement. On a peur de plein d'éléments. Puis on se cache derrière des pensées, mais de toute façon, ça ne les concerne pas. De toute façon, ça sert à quoi? De révéler ça. Ça va changer quoi? S'il y a des choses dans nos vies qu'on n'a pas mis à la lumière, ça va avoir un impact dans notre vie. C'est indéniable. Et ça nous donne aussi une porte pour continuer à le pratiquer, puis à continuer à le faire. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. Quand le mal est révélé, c'est comme si, whoop, je ne pourrais plus utiliser cet élément-là dans ma vie pour continuer dans mes voies. Puis c'est fou des fois comment est-ce qu'on est attaché à nos petits côtés sombres. Mais les conséquences de garder ces ombres, ces endroits d'ombre-là dans nos vies, sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pourrait penser. Ça a un impact beaucoup plus grand. Un enfant de Dieu qui se soucie de marcher dans la lumière, qui se soucie de ce qui plaît à Dieu, ne demeurera pas dans les ténèbres. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. Et quand on a des choses cachées dans nos vies, c'est quelque part on aime cette ombre-là. Et quand ça va être le temps d'amener des choses à la lumière, c'est pas quelque chose qui va être dans lequel on va prendre plaisir. On va tellement résister que ça révèle que nos cœurs sont attachés beaucoup plus à l'ombre que ce qu'on pourrait le penser. Et c'est ce qu'on a vu avec la situation des téléphones. C'est aussi banal que ça. Une simple situation a mis en lumière tellement de choses dans le cœur de ces staffs-là. Une autre situation où est-ce que j'ai imposé la présence de certains staffs à certains événements, ils n'ont réellement pas apprécié parce qu'ils avaient vraiment le sentiment qu'ils perdaient de leur liberté. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés entre eux, puis ils en ont parlé. Il y a une de ces personnes-là dans le groupe d'à peu près 5 qui est venue me voir pour m'en parler. Mais comme elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, elle est retournée dans son groupe, Ils ont continué à parler, puis ils ont continué à parler. C'était rendu à un point où est-ce qu'ils planifiaient de façon intentionnelle ne pas être présents lorsque je leur demandais d'être présents. Et c'était rendu qu'ils demandaient à d'autres staffs de faire des moyens de pression de la même façon, puis d'embarquer dans leur groupe. C'est gros, là. C'est fort. Puis on parle des leaders dans le camp, là. Pas qu'ils sont moins importants, mais c'est que ceux qui sont des leaders dans le groupe, on s'attend à ce qu'ils aient une attitude plus mature ou responsable dans la situation. Mais là, c'est là qu'on voit, quand le cœur est confronté, qu'est-ce qui peut être fait dans les ténèbres, en arrière. Et puis quand je me suis assis avec eux pour leur dire « je suis au courant », parce que j'ai des espions partout dans le camp. Tout se sait. Tout fini, tout se sait. Et quand on a parlé de ça, de voir la réaction de tous et chacun. Il y en a qui ont vu leur cœur, qui se sont repentis. Il y en a que ça a été tout de suite. Ils ont dit, c'est vrai, on a mal agi. Tu fais bien de nous en parler. Il y en a qui sont restés muets. Ils n'ont rien dit. Ça a pris 2-3 jours. Pouf, j'ai reçu des petits courriels. Dans les courriels, il n'y avait pas le droit de cellulaire. Ceux-là, le soir, il y avait le droit. Il y avait une forme de repentance à travers ça. Mais il y en a qui ne sont pas venus me voir et qui ont fait zéro suite à ça. Intéressant, hein? De voir comment est-ce que c'est difficile. De voir comment est-ce que c'est difficile. Et ceux qui me connaissent le savent. Je suis accessible. Vous pouvez venir me parler. Vous pouvez venir me parler. Et puis, s'il y a quelque chose, ben on va simplement aller à la lumière puis demander au Seigneur de révéler les cœurs dans la situation. De révéler les cœurs dans la situation. Des fois, c'est plus simple de simplement aller au fait. Je te demande pardon parce que j'ai fait ça, 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 c'était mal. Mais ceux qui me connaissent le savent aussi que pour moi, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui t'a motivé en arrière de ça? Qu'est-ce que tu avais peur? Qu'est-ce que tu as perdu qui t'a fait réagir autant? Qui t'a fait rugir? Qui t'a fait attaquer? Qui t'a fait sortir de tes gonds? Ou qui t'a fait dire des choses qu'en temps normal, jamais t'aurais dit? Parce que tu te contrôles, parce que tu n'es pas confronté puis tu veux bien agir en temps normal, mais là, il y a quelque chose dans ton cœur qui a justifié que tu as steppé à côté puis que tu t'es mis à avoir des paroles dures, à ne pas faire preuve de bonté, de justice et de vérité. Mais le contraire. Et c'est là que le Seigneur peut apporter la guérison. C'est quand on va là que le Seigneur va réellement apporter la guérison. C'est verset 14 dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Il finit la section en invitant. « Réveille-toi. » Réalise-le, là. Allume. Oui. Tu le comprends-tu, ce qui se passe, là? Ton cœur, il est là, le problème. Ton cœur veut rester dans les ténèbres. Réveille-toi, toi qui dors. Si on veut rester dans les ténèbres en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'on dort. Il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi. C'est que là, tu agis comme si tu étais mort. C'est les gens qui ne connaissent pas Dieu qui agissent comme ça. C'est les gens qui demeurent dans les ténèbres. C'est les gens qui se laissent diriger par le cours du vent, les choses de ce monde, puis il n'y a pas l'intentionnalité de Jésus-Christ dans leur vie. Il n'y a pas le souci de Dieu dans leur vie. Le souci d'agir comme Jésus a agi, de demeurer dans la lumière, de demeurer dans la vérité, d'être bon, d'être juste. Puis là, il dit, réveille-toi. Tournez-vous vers la lumière. Et Dieu va révéler. Dieu va agir. Et le Christ resplendira sur toi. Et oui. C'est une grâce quand on le voit. On peut être conscient et demander pardon, oui. Quand on est aveugle, il y a tout le temps des sections dans nos cœurs qui ont besoin d'être éclairées par l'Évangile. Toujours. On ne se sortira jamais de ce processus-là tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas dans la présence de Dieu parfaite, où est-ce qu'il n'y aura plus aucune ombre, aucune ténèbre. Tout va être que lumière. Et en attendant, on a toujours besoin de l'Évangile. Toujours. Et le mot qui est utilisé là, il est unique dans le Nouveau Testament. C'est le mot, dans le Nouveau Testament, il fait allusion à la lumière du soleil levant. Et le Christ resplendira sur toi. C'est allusion à la lumière du soleil levant. Donc, le Seigneur va, quand la lumière de Dieu luit sur nous, là, c'est, il n'y a pas de plus grande bénédiction. Dieu nous voit. Dieu révèle. Oui. La colombe. Et Christ éclairera. Et c'est Dieu qui éclaire. C'est la lumière de Dieu. C'est pas la mienne. C'est pas moi qui analyse la situation puis qui réfléchit. C'est Christ qui révèle. Et de se soumettre à la lumière de Dieu. De demeurer dans sa lumière. Il dit « demeurer en moi ». On n'a pas été dans 1 Jean. Après ça, il y a Jacques 5,16 qui dit « confessez au lieu de cacher. Confessez vos péchés. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7, c'est « marchez dans la vérité et dans l'authenticité. Comptez-vous pas des mensonges. Si vous dites « marchez dans la lumière », mais que vous continuez à avoir des œuvres dans l'ombre, vous vous comptez un mensonge. Vous vous mentez à vous-même de dire que vous êtes dans la lumière alors que vous continuez à pratiquer des œuvres dans les ténèbres. Vous vous mentez. C'est tellement important de marcher dans la lumière, de ne pas résister. Quand des situations comme on a vécu cet été révèlent nos cœurs, de ne pas garder les choses cachées, mais de confesser, de révéler, d'aller au Seigneur. C'est ce que j'ai encouragé les staffs à faire tout au long de l'été. Et puis, la situation des téléphones n'a été qu'un exemple parmi d'autres. C'est tellement fondamental et c'est le point de départ pour la croissance. C'est le point de départ de la vie avec le Seigneur. Marcher dans la lumière, dans la vérité et de révéler. Et c'est là qu'on voit si on a réellement confiance dans la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu va m'aimer? Et Dieu nous dit partout dans les Écritures qu'il nous aime. Il ne révèle pas dans le but d'apporter la honte et de détruire. Il révèle dans le but de guérir, de restaurer. Et c'est ça que ça fait, la présence de Jésus. Partout où Jésus a été, quand on regarde dans les Évangiles, il a apporté la guérison et non la destruction. Et quand on s'expose à Jésus-Christ, c'est ce qu'il va faire dans nos vies et dans nos cœurs. Prions. Merci Seigneur Jésus pour tes bontés. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Seigneur de faire luire ta face sur nous. Merci de mettre en lumière, Seigneur Jésus, nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de nous donner le courage, la foi, la force, Seigneur, d'abandonner, d'apporter à la lumière, Seigneur Jésus, les choses dans nos cœurs qui sont les plus profondes, les plus cachées, Seigneur. Viens nous convaincre de ton amour. Viens nous convaincre, Seigneur Jésus, de ta bonté. Viens à la rescousse de notre folie, Seigneur Jésus, notre tendance naturelle qui est de cacher, qui nous emmène dans toutes sortes de pratiques, Père éternel, dans le quotidien qui ne sont pas dignes des enfants de lumière, Père éternel, qui ne sont pas dignes de toi. Seigneur Jésus, viens faire cette œuvre dans nos cœurs et viens révéler, Seigneur Jésus, ce que tu veux qu'il soit révélé. Viens restaurer, Père éternel. Merci pour les frères et sœurs, Père, que tu nous donnes, à travers avec qui, Seigneur Jésus, on peut marcher, avec qui, Seigneur Jésus, on peut réellement vivre ce processus de restauration. Merci pour ton assemblée ici, Seigneur Jésus, qui aime d'une façon inconditionnelle, dans laquelle, Seigneur Jésus, on est libre de pouvoir révéler nos cœurs tels que nous sommes, Seigneur Jésus, tels qu'ils sont réellement. Merci, Seigneur Jésus, pour la sagesse et la maturité que tu as donnée à cette assemblée, Père éternel, pour que les frères, les sœurs puissent vivre ce processus avec toi, Père, de restauration, qu'il n'ait plus besoin de se cacher, Seigneur Jésus. Dans le précieux nom de ton Fils, qu'on te prie, qu'on te loue, Père. Amen. Soyez bénis.